Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. À mes côtés tous les jours dans ce studio pour vous éclairer sur les sujets de santé qui vous préoccupent, mais il arrive à le faire presque toujours dans la bonne humeur. Vous êtes bonne humeur, Jimmy?
Oui, j'étais chafouin il y a 10 minutes, mais là tout va bien.
Ah, bah ça tombe bien. Vous allez voir, on va en parler aujourd'hui. Alors, au sommaire, justement, notre grand dossier du jour sera tourné vers une année positive. Oui, ça vous semble un peu compliqué vu l'ambiance en ce moment, mais grâce à notre invité du jour, la psychologue Audrey Acoun, nous allons vous donner plein de conseils à mettre en pratique au quotidien pour en finir avec le marasme qui nous entoure dans les mois qui viennent. Et ça tombe bien, elle publie un outil très pratique pour nous accompagner, ça s'appelle mon bullet agenda. Agenda, je le fais agenda aux éditions Viber. Vous allez voir, un agenda pas comme les autres. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Nous ferons un point sur un bobo courant. Vous avez peut-être déjà eu un panari parce que vous vous rongez les ongles, par exemple. Eh bien, comment ça soigne un panari? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. Enfin, vers 15h50, nous retrouvons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question d'apparence. Nous répondrons à la question d'une jeune femme qui ne supporte plus les critiques de son conjoint. Et vous verrez, elle a bien raison.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par cette question que nous a laissée Annabelle.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. On parle toujours d'hypertension, mais je sais que l'on peut aussi avoir une baisse de tension. Par quoi ça peut être causé et quels sont les symptômes? Merci beaucoup, au revoir.
C'est vrai, Jimmy, qu'on parle souvent d'hypertension dans cette émission, mais pas de l'inverse finalement, l'hypotension. C'est combien d'ailleurs avoir de l'hypotension? On aime bien les chiffres là, les fameux chiffres de tension, là, 14, 9, 12, c'est 8, ça. 12, 7. Hypotension, c'est quoi?
Alors, on comprend facilement qu'hypertension, c'est une tension élevée, hypotension, une baisse de tension, mais on ne sait jamais définir ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, pour vous, c'est quoi, Mélanie, une baisse de tension?
Moi, je sais que j'ai toujours 12, 8 ou 12,
ça,
7.
C'est une tension normale.
Ça, c'est bien.
Mais
me
la
dit.
Tension, la baisse de 9. Tension, c'est lorsque vous êtes en dessous de 9, exactement.
Ah,
9,
c'est ça, j'étais 6. Bien.
Vous êtes journaliste santé quand même, heureusement que vous savez ça. D'ailleurs, c'était un petit piège, j'allais me plaindre à la régie en me disant « Non mais c'est un scandale, Mélanie Gomez
est
une arnaque », mais non, vous avez raison. Donc en dessous de 9-6, on parle de vraie baisse de tension, celle qui va avoir une vraie conséquence physique à la fois sur vos organes, mais aussi sur votre état de forme, alors que parfois, je vois des patients qui ont une tension à 10-11, ils me disent « Ouh là là, j'ai une petite tension ». Non, c'est une tension normale, 10-11-12 sont des tensions absolument normales, pour lesquels on ne fait strictement rien.
On va parler du pathologique, mais il y a des gens qui ont de façon naturelle une tension basse. On dit parfois, je vous dis parfois, oh là là, Jimmy, t'as deux tensions aujourd'hui. C'est pas sympa, mais avoir une tension basse, c'est possible. Il y a des gens qui ont tout le temps 9,
oui,
10.
Alors c'est rare malgré tout. La tension, normalement, elle sert justement à donner assez d'oxygène au travers du sang aux différents organes. Et lorsque votre tension est en dessous de 9,6, vous avez difficilement du sang au niveau de votre cerveau. Et donc, vous pouvez faire un malaise, puisque comme il manque d'oxygène, eh bien, il y a un mécanisme de protection. Il se met en quelque sorte off et vous tombez dans les pommes. C'est ce qui vous arrive quand vous êtes dans un bus avec une atmosphère confinée, avec beaucoup de chaleur. La tension chute et vous tombez dans les pommes. Donc, d'une façon générale, nous devons tous avoir une tension au-dessus de 9, même si certains, effectivement, notamment les jeunes femmes, peuvent avoir 9,5, 10 et se sentir parfaitement bien.
Quand j'allais vous dire, quand on a une baisse de tension, les symptômes, vous avez dit on peut tomber dans les pommes, mais il y a d'autres symptômes, d'autres signes?
Essentiellement, lorsque vous avez ces baisses de tension, c'est dans des situations pathologiques. Vous avez une gastro-entérite sévère, vous êtes déshydraté, vous avez un surdosage dans vos médicaments contre l'hypertension artérielle, vous avez une infection sévère, vous avez consommé beaucoup d'eau et donc votre tension est basse, ça résulte d'un état pathologique. Et donc, il faut savoir pourquoi est-ce que vous avez cette baisse de tension qui peut vous donner de la fatigue, des vertiges, mais des symptômes très peu spécifiques, alors que finalement, il faut s'intéresser à l'origine du mal, ce qui peut vous donner la baisse de tension.
Merci beaucoup, Jimmy. On va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est Laurine qui nous l'a posée. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Mon fils s'est vu prescrire du cure-acné car il avait beaucoup d'acné. J'ai lu la notice, ça m'a fait flipper. J'ai l'impression en fait qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Il risque quoi vraiment et est-ce que ça vaut le coup de le tenter à votre avis? Merci.
Alors bon, le tenter ou pas, on va laisser ça à son dermatologue évidemment. Mais Jimmy, une question sur un médicament qu'on appelait aussi je crois le Roaccutane à un moment donné, enfin peut-être toujours. Ouais. C'est prescrit dans quelle indication? C'est contre l'acné. Hein,
exactement, cure-acné, Roaccutane, c'est la même chose. Maintenant c'est plutôt du cure-acné qu'on propose. Le Roaccutane existe sous forme de crème. Alors, c'est un médicament qu'on appelle l'isotrétinoïne, donc c'est un nom un peu barbare, dont on ne connaît pas très bien encore les mécanismes, mais on ne sait pas exactement pourquoi ça marche. Alors, d'une façon générale, quand vous avez des boutons, des comédons, il y a de l'inflammation, et vous allez avoir dans un premier temps des cellules qui vont être produites en plus grande quantité, et puis aussi vous allez avoir de l'obstruction et de la rétention avec une production excessive de sébum.
Oui.
Ce sébum est important pour la prolifération d'une bactérie qu'on appelle pnéacnès, qui donne justement les boutons d'acné, et le Roaccutane marche en bloquant la production de sébum et c'est réservé pour les formes d'acné très sévères pour lesquelles on a déjà essayé d'autres traitements. Donc, ce n'est pas un traitement de première intention et seul le dermatologue peut le prescrire. Ce n'est pas au médecin généraliste de le faire.
D'accord. Alors, juste pour répondre très précisément à la question de Laurine, elle a dit qu'il y avait une liste d'effets secondaires hallucinantes dans la notice. Alors d'abord, c'est souvent le cas avec beaucoup de médicaments. Il y a une longue liste. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les avoir, les effets secondaires.
Exactement. Alors, le risque principal, c'est celui de lié aux malformations. Il est tératogène. Si jamais vous êtes une jeune femme et que vous avez du roaccutane et que vous tombez enceinte, il y a un risque de malformation gravissime, raison pour laquelle il faut une contraception efficace.
Obligatoire.
Et on fait un test de grossesse pour être sûr que vous ne l'êtes pas. Il y a aussi d'autres effets secondaires. On surveille notamment ce qu'on appelle les transaminases, les hormones, les molécules qui sont créées par le foie qui peuvent souffrir et peut avoir une atteinte hépatique. Et donc, on fait des bilans sanguins assez réguliers pour être sûr qu'il n'y a pas de souffrance. Et puis aussi, on surveille le cholestérol. Il peut y avoir une augmentation des triglycérides, même si, en général, avec la simple surveillance, ça va. L'effet secondaire principal qu'il faut retenir, c'est la sécheresse. Sécheresse cutanée, des muqueuses au niveau des yeux. Donc, une bonne hydratation pour éviter justement ces effets secondaires.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Laurine qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Sans rendez-vous, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous Audrey Acoun, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes psychologue, spécialiste en psychologie positive et auteur du livre Mon bullet agenda, je le dis bien cette fois, aux éditions Vuibert. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans votre agenda par rapport aux autres, finalement, à tous ceux qu'on trouve en ce moment pour 2021 dans le commerce?
Mais oui, alors c'est un agenda qui permet de s'organiser. Bullet agenda parce que c'est un agenda qu'on peut personnaliser. Mais en plus, j'ai absolument voulu incorporer un programme de coaching qui est le programme de coaching que je fais avec mes patients, avec les clients que je reçois. Et j'ai essayé de recréer semaine par semaine tous les conseils et toutes les notions de psychologie que je donne en vrai dans mon cabinet.
Donc c'est un peu Audrey Acoun dans ma poche, quoi.
C'est exactement
dans mon cartable,
ça. Ouais,
c'est
un peu bizarre de le dire comme ça, mais ouais, c'est mon coach de poche.
Jimmy, vous voulez mettre dans votre poche?
Non, mais on peut se poser la question, à l'ère du numérique, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir un agenda?
Oui, il est moderne, Jimmy, hein, il aime les trucs électroniques.
Non, mais il a raison, c'est une bonne question.
Bah, merci, parce que Mélanie est très condescendante depuis quelques temps, je trouve qu'elle suit une pente. Écoutez.
Alors moi qui suis très connectée et très digitale aussi, je reconnais que rien ne remplace aussi le côté papier, le matériel, ne serait-ce qu'une raison toute simple qui est la question du cerveau. La main est le prolongement naturel du cerveau. Quand j'écris...
Donc ça va nous forcer à écrire cet agenda,
non, mais
forcément,
oui, mais
c'est
quand,
ça.
Ouais. Quand j'écris, je mémorise mieux, voilà,
c'est vrai,
je,
hein.
Je ressens mieux les choses.
Quand on
bachotait,
moi je faisais des fiches pour réécrire tout. Ouais, c'est ça, ça c'est presque prouvé.
Et puis c'est un objet, c'est pas un doudou, mais c'est voilà, quand on a un objet qu'on peut tenir, qu'on peut parcourir, revenir, avancer, revenir en arrière... de manière comme ça matérialisée, il y a un côté rassurant qu'on n'a pas forcément avec notre téléphone.
C'est vrai. Jimmy ?
Et vous dites que pour booster notre confiance en soi, il faut se projeter dans l'avenir et écrire notre vie idéale. C'est ce que vous conseillez, c'est de se projeter quoi, dans 10, 15, 20 ans ?
Oh non, même avant quand même.
L'agenda, il est sur un an.
Sur un an,
d'accord.
De la fin de l'année.
Là, il est déjà sur un an. Donc, de se projeter
jusqu'à 2034. Hein,
déjà de dire, moi j'aime bien les petits objectifs. On a plus de chances d'atteindre nos objectifs quand on n'a pas trop d'exigences non plus et d'attentes surtout. Donc de se projeter et de se dire simplement, voilà, ma vie est telle qu'elle est aujourd'hui. Comment j'aimerais qu'elle soit l'année prochaine à la même date? Quand je me ferai la rétrospective de mon année, qu'est-ce que j'aimerais avoir vécu dans l'année? Qu'est-ce que j'aimerais ne plus avoir vécu aussi dans l'année? À quoi je dis au revoir? À quoi je mets des limites? Et vers quoi j'ai envie d'aller déjà pour l'année prochaine?
Ouais, moi, je suis en juillet 2021. Là, il y a écrit « prendre du temps pour moi ». Je vais mettre une petite case, hein, pour comme ça, je ne vais pas oublier. dans votre livre, votre agenda, ça permet donc d'organiser des choses pour l'année à venir. C'est un agenda, c'est le principe habituel d'un agenda. Mais c'est pour éviter notamment cette espèce de burn-out qu'on peut avoir, se projeter dans les mois à venir. Ça permet d'éviter le burn-out?
Oui, alors c'est se projeter à la fois dans les mois à venir, mais se projeter aussi au quotidien. C'est-à-dire que moi, l'idée de cet agenda-là, il y a très longtemps que je l'ai eue. Quand j'étais maman à l'époque de 3 enfants en bas âge et que je travaillais et que je n'en pouvais plus, je me disais, mais ça serait génial d'avoir un agenda où à la fois je peux gérer mes rendez-vous, mais ceux aussi de
toute
la famille,
famille
et de poser
ouais.
les choses. Mais en fait, surtout, j'ai besoin d'aide et j'aimerais avoir qu'on me dise des trucs à faire, des choses qui me font du bien, qui peuvent m'aider pour m'alléger, d'avoir des conseils en fait au quotidien, autre que juste peut-être des mantras qui sont très bien, les phrases positives. Moi, je suis pour les phrases positives. Je pense qu'au bout d'un moment, ça ne suffit pas et que parfois, on a besoin juste d'avoir des conseils très concrets.
Mais c'est concret,
parce que ça
je vois avec des petits dessins, il y a plein de petits conseils.
De relâcher la pression.
C'est moins sinistre qu'un agenda habituel, effectivement.
Parce que d'habitude, on se donne des bonnes résolutions au 1er janvier, mais souvent des trucs un peu chiants. Faire du sport, perdre du poids.
Arrêter de fumer.
Arrêter de fumer. Bon, non, c'est une bonne chose, arrêter de fumer. Non, mais des objectifs un peu contraignants, alors que là, c'est plutôt le contre-pied. Faire des trucs qui nous font plaisir, en tout cas. Ou en tout cas
oui, alors c'est pas que plaisir, c'est des choses. C'est-à-dire qu'on sait que les bonnes résolutions, enfin, si les bonnes résolutions, on les tenait, celles qu'on prend.
Ce qui n'est pas le cas.
Au 1er janvier, ça se saurait.
Mais Jimmy, on y arrive
tous vachement,
bien.
C'est pas vraiment ça qui se passe. Donc, moi, je me suis dit, plutôt que de prendre des bonnes résolutions qu'on ne tiendra peut-être pas, ou forcément pas, plutôt de se poser la question en début d'année de quoi j'ai envie, vers quoi j'ai envie d'aller aussi, pour aller dans le sens de mon bien-être et de mon développement, que ce soit privé, professionnel, de ma santé. Comment j'ai envie de prendre soin de moi aussi. C'est pas la même chose de dire « il faut que je perde 5 kilos » que de se dire « j'ai envie de me remettre au sport, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie d'avoir confiance en moi. » Et
vous
pour avoir
tous
confiance
les deux,
en moi,
elle vous connaît, j'ai l'impression.
Du coup,
ça me va très bien.
Il va peut-être falloir que je fasse un peu plus attention à mon poids, juste pour me sentir mieux dans ma peau, pas sur un plan esthétique, sur un plan de l'énergie, d'avoir plus... J'ai envie d'avoir plus d'énergie cette année, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir plus d'énergie ? Plutôt que ce truc un peu de sanction et d'obligation, d'injonction, de « il faut perdre 5 kilos, il faut faire du sport, il faut faire ci, il faut faire ça », d'être dans la contrainte tout le temps, ça ne nous aide pas à mettre en œuvre les choses, ça nous fait juste culpabiliser de ne pas le faire.
Bon, on va commencer cette liste de nos envies. Audrey Hakoun, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être sur notre plateau aujourd'hui. Notre invité, c'est vous, Audrey Hakoun. Vous êtes psychologue, spécialiste en psychologie positive et également l'auteur, et c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui, du livre Mon Boulette Agenda. Je le dis bien cette fois.
Formidable.
Ah, super. Boulette, ça vient de l'anglais. Ça veut dire quoi, boulette ?
C'est les listes.
Ça n'a rien à voir avec les boulettes, les couscous boulettes.
Non, c'est pas les couscous boulettes, pas encore.
Très bien. Et c'est donc.
Ça, c'est pour la prochaine version.
Très bien. C'est aux éditions Vuibert. Alors, Audrey, vous nous donnez plein d'outils dans votre agenda pour se projeter vers une année positive et vous proposez notamment de nous initier à l'ikigai. C'est quoi ? Parce qu'honnêtement, même, enfin moi, je ne sais pas ce que c'est non plus. Hein.
Alors, l'ikigai, c'est une philosophie ancestrale qui nous vient de l'île d'Okinawa, au Japon, qui est un des endroits du globe qu'on appelle les zones bleues. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Le travail
ici.
De Dan Buettner sur les zones bleues, où il y a la plus forte concentration de centenaires qui vivent très longtemps en bonne santé, c'est-à-dire qu'ils ne meurent pas de maladie, ils meurent en bonne santé, juste de date de péremption, parce qu'à un moment, il faut que ça s'arrête quand même. Et ils déclarent tous, quand ils ont été interrogés, avoir eu une vie riche de sens et, grosso modo, malgré les difficultés de la vie, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, ils disent que, grosso modo, ils ont été épanouis, heureux et surtout que leur vie avait une utilité et un sens. Ouais. Et de là, donc, les chercheurs en psychologie positive les ont interrogés sur leur mode de vie pour comprendre qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils faisaient, leur comportement, leur mode relationnel et tout ça. Et ils ont compris plusieurs choses. Ils ont compris que c'était des gens qui arrivaient à trouver un équilibre de vie où ils arrivaient à se connecter, à faire ce qu'ils aiment et à incorporer dans leur vie vraiment des choses qui les font vibrer, qui les mettent en joie, que ce soit pour la vie privée ou la vie professionnelle. C'est des gens qui utilisaient leur talent quel qu'il soit, même si ça peut être le talent de jardinage, mais ça peut être un talent d'écoute. Donc on a tous des talents et des talents uniques. Et donc ils utilisaient leur talent. Ils avaient une activité professionnelle et des activités qui leur permettaient d'être payés et d'assurer leur base, bien évidemment. Mais tout ça était une sorte de développement personnel au profit du collectif, puisqu'ils avaient un fort sentiment de contribution.
Ouais, d'altruisme.
C'est pas que de l'altruisme grandiloquent comme ça, c'était vraiment le sentiment d'utilité.
Le groupe.
Oui, c'est-à-dire que ces personnes âgées qu'on a interrogées ne s'arrêtent jamais d'être en activité. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont à la retraite de leur profession, de leur métier, elles continuent à être investies dans la communauté, dans des associations. Elles sont toujours utiles, elles se sentent utiles. Et c'est apparemment ça qui fait une grande différence dans la façon dont on se sent dans sa vie.
Ça paraît limpide, je trouve, quand elle le dit
et
comme ça.
Mais ça fait écho à des patients que j'ai pu voir, 30 ans, 40 ans, qui font un job plutôt bien payé, une situation confortable, mais qui décident de changer de profession parce qu'ils me disent « ma vie n'a pas de sens, ce que je fais n'a pas de sens oui. ». Eux, ils cherchent une reconversion professionnelle dans des métiers qui n'ont strictement rien à voir. Donc eux, ils sont en train de chercher leur ikigai en essayant de changer de vie, en fait, tout simplement, que la quête du sens.
C'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, et notamment en Occident et en France, et encore plus avec la crise sanitaire qu'on vit depuis plusieurs mois, qui nous a renvoyé à nous-mêmes et à nous poser des questions. Quand on est chez soi seul, qu'on ne va plus travailler ou qu'on se met en télétravail, qu'on se rend compte qu'on peut travailler différemment, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question vers 30, 40 ans, 50 ans, de dire « Ok, je suis payée, ok, j'ai un job, j'ai fait des études, j'ai fait le bon petit soldat toute ma vie, je ne me suis pas trop posé de questions, mais en fait, je me rends compte que je n'ai pas l'impression d'être vraiment utile, ça n'a pas vraiment de sens. » Et j'ai même pas l'impression d'utiliser vraiment les talents ou de m'éclater. Donc on travaille juste pour payer des factures à la fin du mois ou pour avoir un statut social, on se rend compte que ça ne suffit pas pour s'épanouir et pour être utile en plus aux autres. Parce que quelqu'un qui n'est pas épanoui n'est pas très utile.
Comment on trouve son ikigai ? Parce qu'on a chacun le sien, en fait. C'est quelque chose de très intime, finalement.
Oui, c'est vraiment
j'ai
un
pas
parcours.
Le même que Jimmy,
c'est un parcours de réflexion avec des questions d'introspection où on va aller chercher vraiment toutes les ressources en nous dont on n'avait pas forcément conscience avant, donc de
pour
se illustrer, reconnecter.
Audrey, on ne va pas vous demander de dévoiler des choses intimes, mais votre ikigai à vous, il y a peut-être des choses que vous pouvez nous livrer.
Moi, si, enfin, sans que ce soit très intime, mais en ayant réfléchi à toutes ces questions. Donc c'est une liste de questions comme ça qui nous amène à faire émerger vraiment l'essence, quoi, notre authenticité. Moi, ça se résumerait en inspirer, les verbes inspirer, révéler, motiver et voyager. Je sais que quand je suis là-dedans, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle et que ça se manifeste de manière différente, eh bien, je suis à ma place, je me sens utile et surtout, je kiffe.
Ouais, c'est le principal, Jimmy.
Chez les enfants, on peut faire ça aussi avec eux ou on fait ça en famille ?
Oui, alors chez les enfants, on peut le faire en famille. Chez les petits-enfants, on peut le faire partiellement puisque ce pourquoi ils peuvent être payés...
C'est pas encore.
C'est pas encore, mais... de les connecter à ce qu'ils aiment, à leurs rêves, à ce qu'ils ont envie de faire. Justement, moi, dans l'ikigai, c'est ce que je dis souvent. Je dis, finalement, combien on était à avoir des rêves quand on était jeune. Et il y a eu les rêvicides qui sont arrivés.
Oui,
et les
clair.
Rêvicides, c'est les tueurs de rêves qui sont souvent les personnes les mieux intentionnées pour nous, c'est-à-dire nos parents et les adultes qui nous disent « Ah mais non, ça, tu peux pas faire. »
Fais de vraies études,
non,
hein, quand
fait
même.
Fais des trucs. Parce qu'en fait, ils projettent leurs inquiétudes sur nous. Et du coup, on perd son feu intérieur, ce qui nous motivait vraiment quand on était jeune. Donc oui, le faire avec les enfants, c'est génial aussi.
Audrey Hakoun, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous Audrey Hakoun. Vous êtes psychologue et spécialiste en psychologie positive et également l'auteur du livre « Mon bullet agenda » aux éditions Vuibert. Alors, dans le contexte actuel, Audrey, comment rester positif ? C'est une grande question. Ne plus faire la fête, rester dans son groupe d'amis, c'est dur psychologiquement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus facile à vivre ?
La période qu'on vit là en ce moment est vraiment difficile parce qu'elle nous prive en premier lieu de la connexion, d'une connexion en liberté avec les autres. C'est-à-dire de pouvoir, plus que le divertissement, c'est que ça nous prive de la convivialité. Surtout s'il faut commencer à choisir le nombre de personnes qu'on a le droit de voir, ou comme dans certains pays, mais je pense que ça va arriver, la bulle. Donc j'étais avec une patiente belge hier qui me disait qu'il faut choisir une seule personne.
Un ami. On doit en garder qu'un, c'est difficile.
Avec qui on a le droit. Donc c'est vrai que cette privation, même plus que la privation de liberté, c'est vraiment la restriction de la connexion humaine avec les autres. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà, même en étant chez soi, même si le soir on ne sort pas, de continuer à être en contact d'une manière ou d'une autre, donc avec tous les moyens de messagerie qu'on a, les visios, de faire des apéros, comme il y a eu pendant le confinement, où il y avait des apéros par visio, de continuer à avoir du contact. Et peut-être, c'est aussi peut-être quand même, parce que ça ne va pas durer non plus toute la vie, cette période-là.
Bien sûr, on l'espère.
Rien ne dure éternellement, de toute façon. C'est peut-être aussi l'occasion de revenir un peu à soi-même et de prendre soin de nous. Quand on est dans notre vie complètement de fou, là, où on bosse dans tous les sens, où on s'énivre, on se divertit, on sort, on n'arrête pas de bouger, peut-être que ce qui nous manque aussi, c'est de prendre un peu plus soin de nous, de mieux dormir, de mieux manger, de prendre le temps de recuisiner, d'avoir aussi des activités peut-être plus calmes, de réfléchir, d'écrire, de se mettre à écrire, pourquoi pas, de dessiner, peu importe.
Du coup, mieux dormir passe peut-être aussi par réduire sa charge mentale et donc le soir, profiter peut-être pour s'y couper les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pardon, qui sont un peu anxiogènes quand on regarde ce qui se passe. On nous dit le nombre de cas, les réanimations, les morts. On a ce flux permanent un peu stressant qui nous parasite un peu.
Alors là, par rapport à ce que vous décrivez qui s'appelle une détox digitale et informationnelle aussi, vous prêchez une convaincue et aussi plein d'études en psychologie qui vraiment nous expliquent que le soir... il faudrait vraiment déconnecter déjà au moins une heure avant d'aller se coucher des écrans, d'une manière générale. Et c'est sûr que d'être en lien direct et en prise directe avec les infos en continu qui sont très anxiogènes, avec les images, notamment les images. À la limite, il vaudrait mieux les lire que les voir. Mais de passer toute sa soirée sur les chaînes d'infos en continu, c'est hyper anxiogène. Ça ne favorise pas un sommeil de qualité, puisqu'après, on continue à ruminer. Ça crée de l'anxiété, c'est anxiogène.
Audrey, vous dites que dans la psychologie positive, ce qui est fondamental aussi, c'est la musique. Et c'est très important d'avoir une playlist de gratitude. Commencer la musique avec une journée qu'on adore, c'est le meilleur des débuts, c'est ça ?
Oui, c'est une manière de commencer, je ne sais pas. Mais en tout cas, que dans notre journée, il y ait à la fois de la musique et à la fois du mouvement. Et souvent, le mouvement est associé à la musique. C'est parce que la musique dégage, c'est une forme d'énergie, ça dégage une énergie. Et il y a des musiques qui vont... entrer en résonance avec nos émotions et on peut même moduler notre humeur et nos émotions en fonction de la musique qu'on écoute.
Jimmy ?
D'ailleurs, justement, il y a le morceau du bonheur, c'est prouvé scientifiquement. On va écouter un petit extrait. Mais c'est vrai, ça marche en plus. Très clair, on a
mais non,
quoi.
Mais c'est génial.
Je vous vois vous détendre, Jimmy, sourire.
Non, mais c'est sûr, c'est surréaliste, mais oui, effectivement.
Alors ça, c'est celui qui marche pour tout le monde. Tous les gens derrière leur boss sont convaincus, j'en suis sûre.
Ce sont des mathématiciens qui ont découvert qu'il y avait un algorithme dans ce morceau-là qui agissait sur l'humeur et qui était donc le morceau du bonheur.
Celui-là, je pense que quel que soit le style de musique qu'on écoute,
même quand on n'aime pas,
à tout le monde.
Ça nous fait du bien.
Vous avez... Après, il faut qu'on ait tous sa playlist, on va dire, préférée, qui fait du bien. Et vous, dans la vôtre, il y a quoi, par exemple ?
Moi, je suis très éclectique, donc il y a un petit peu de tout, mais ce qui va me donner la pêche,
ça vous donne la pêche, je pense.
Alors
quoi,
ça, c'est une reprise en fait de I Feel It Coming de The Weeknd, mais qui a été repris par Scary Pockets, qui est un groupe qui reprend, qui fait que des covers mais version funk. Et la funk, c'est un rythme qui donne la patate.
Ça vous donne la patate, Jimmy, vous ?
Non, c'est pas mal. Je suis un peu détendu là. Effectivement. Ça va mieux tout de suite. Est-ce que ça marche aussi avec les couleurs ? Est-ce qu'on pourrait essayer de booster son humeur ou sa bonne humeur plutôt ? En choisissant les couleurs ou peut-être en évitant certaines.
Jimmy est en bleu, vous êtes en blanc, moi je suis en bariolet bleu et blanc. Qui a la meilleure couleur là ?
Alors j'ai un super ami qui s'appelle Jean-Gabriel Cos, qui est un des grands spécialistes des couleurs, qui m'a fait un super cours la dernière fois là-dessus. Donc oui, les couleurs agissent sur l'humeur, agissent sur notre état émotionnel. Et donc si on veut avoir la pêche par exemple, on va plutôt privilégier des couleurs jaunes, oranges, rouges.
C'est pas du tout vous, Jimmy.
Si on veut s'apaiser et se calmer, on va plus être dans des couleurs bleues, des verts. Alors sans tomber non plus dans les couleurs
bleu, tous les deux, on a
trop d'accord pour une fois.
Bleu nuit, bleu foncé, jusqu'au noir où là ça peut plomber un peu l'ambiance, vous voyez, d'être que le total look tout foncé, tout noir, ça peut plomber l'ambiance. Mais par exemple, si on veut booster sa vie sexuelle, parce que ça intéresse tout le monde, je pense, il faudrait avoir plus de couleurs parme. Donc c'est un vieux rose, un rose un peu foncé. Le rose clair, c'est plus la couleur de la tendresse.
Notre réalisateur nous dit qu'il va repeindre sa chambre ce week-end.
Le rose parme est réputé pour booster l'envie sexuelle, le désir.
C'est génial, on apprend plein de choses. Et alors, je crois que si on est au régime, par contre, si on veut maigrir, il faut éviter d'avoir, j'ai lu ce que vous disiez, une cuisine rouge. La mienne est toute rouge. Alors, je pense que j'ai compris pourquoi je prenais du poids. Rouge, ça donne faim, non ?
En fait, oui. Si vous regardez les restaurants de viande, par exemple, alors le rouge est associé à la viande rouge, mais le rouge donne faim, mais de la même manière que le jaune aussi.
Je vais la reprendre en parme, ma coupe de cuisine, peut-être.
Donc, faut peut-être des couleurs un peu plus neutres si on veut calmer l'appétit.
Quelle couleur votre cuisine, Jimmy ?
Je ne sais même pas quelle couleur.
Il va jamais dans la cuisine.
C'est tellement lamentable.
Je demanderai à votre femme.
Je ne sais même pas quelle couleur la cuisine. Non, mais elle est dans le salon en fait. Donc bon, bref, on passera. Non mais j'ai un bug là, je ne sais pas de quelle couleur
ça,
est la
ça me fait penser à la Black Sherry, emmène-moi dans un endroit où je ne suis jamais allée, dans la cuisine.
Je saurai où aller la semaine prochaine. Alors on parle souvent du ménage de printemps, je vois Mélanie morte de rire, mais est-ce qu'il faut faire aussi un ménage dans notre vie, se débarrasser de vêtements dont on ne sert jamais par exemple, ou dont on a assez servi et pour lequel il faut peut-être passer après à la poubelle, quoi.
Alors oui, alors donc le ménage de printemps existe depuis toujours. C'est ancestral puisqu'on le retrouve dans les principales religions.
Moi,
même. Ce ménage de printemps qui symbolise le renouveau et un nouveau cycle. Donc on se délaisse.
Changer les meubles de place, moi j'adore ça.
Non seulement on va se délester du surplus de fringues, moi c'est ce que je dis, si ça fait plus d'un an que vous ne les avez pas mises, c'est bon, il faut les donner.
Un an, c'est bien, ouais.
On range les placards, mais on peut aussi faire le ménage relationnel, c'est-à-dire de faire un petit peu le point sur les relations qui nous font du bien et celles qui ne nous font pas du bien, et prendre peut-être un peu de distance pour se protéger des relations qui ne nous font pas du bien et nous rapprocher des relations qui sont bénéfiques pour nous. Donc c'est ça aussi, faire le ménage.
Très bien. Merci beaucoup Audrey Hakoun d'être venue sur notre plateau cet après-midi, nous contaminer de votre bonne humeur, comme toujours, de positif. Pour ceux qui voudraient se lancer dès aujourd'hui dans cette projection d'une année positive, je rappelle votre livre, Mon Bullet Agenda, aux éditions Vuber. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi encore. Alors il est temps à présent de passer à notre séquence les bobos du quotidien. Aujourd'hui, focus sur un bobo très fréquent, le panari. Avez-vous déjà eu ce bobo au niveau des ongles, du doigt? Peut-être parce que vous vous rongez les ongles, qui sait? Alors savez-vous par quoi c'est causé? Comment ça se traite, bien sûr, un panari? Notre journaliste, Benjamin Lévesque, a été testé vos connaissances sur le sujet. On écoute ce que ça donne.
C'est un ongle, je crois, qui entre dans la peau.
C'est toujours peut-être en relation avec les pieds. C'est très très douloureux. Le panari vient plus d'une infection, mais je me demande si c'est pas viral ou en tout cas il y a des cellules qui sont infectées par quelque chose en fait.
Un panari. Alors moi je me souviens en avoir eu un 2-3 fois. Les fameux petits bouts de peau qu'on peut avoir sur le coin des ongles quand on l'arrache un peu trop fort, du coup ça fait une inflammation au niveau du doigt.
C'est contagieux. Alors que la verrue ne l'est pas, je crois, et le panari peut l'être, il me semble.
On préconise dans un premier temps un bain de pied avec du gros sel, les méthodes un peu de grand-mère.
Alors couper un membre pour un panari, j'imagine que ça peut être le cas si c'est traité de manière très 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 tardive.
Je pense que je prendrai une aiguille, je piquerai pour faire sortir le pus et puis je mettrai un petit peu de désinfectant et, pendant 2-3 jours.
Jimmy, d'abord un panari, précisément, c'est quoi? Parce qu'il y a une dame qui parlait de bain de pied, moi je pensais que c'était qu'au niveau des mains, les panaris.
Eh ben non, elle a raison. Alors un panari, c'est une infection bactérienne des tissus cutanés et sous-cutanés qui prennent naissance au niveau des ongles, donc ça peut être les ongles des mains, mais aussi des pieds, et ça commence toujours par une porte d'entrée infectieuse. Vous avez une plaie. Tout à l'heure, l'auditeur parlait de cuticules, vous savez, les petites peaux qu'on va arracher.
Moi, je les croque. Ouais.
Eh bien, il ne faut pas, puisqu'on va laisser la peau être une barrière cutanée qui sert à nous défendre. Et donc, si on retire cette barrière, des germes peuvent pénétrer et vous donner ce panari qui fait mal et qui peut donc toucher à la fois les mains, mais aussi les pieds.
Très bien, bon, on ronge rarement les cuticules des pieds. Donc,
ça dépend des personnes. Vous, on ne contient pas les mêmes personnes.
Il faut être très très souple. Moi, ça, je ne peux pas y arriver.
Émotivé.
Tout le monde, alors, est-ce que tout le monde, Jimmy, peut avoir un panari? Même les enfants, je crois qu'on avait parlé déjà il y a quelques temps du panari du bébé. Justement, il y avait une auditrice qui nous avait laissé une question sur le sujet.
Effectivement.
Donc les enfants peuvent être touchés aussi.
Exactement, personne n'est épargné par des panaris dès lors qu'il y a une porte d'entrée, une petite infection.
Puis les enfants qui se rongent les ongles, il y en a.
Il y en a exactement, liés au stress. Et bien donc, on peut tous avoir un panari, même si certains peuvent avoir une petite prédisposition, notamment les diabétiques qui ont une sensibilité accrue aux infections, peuvent eux développer un panari un peu plus sévère, d'autant plus qu'étant donné qu'ils ont la perte du signal de douleur, et bien ils ne se rendent pas compte qu'ils ont mal, et donc ça évolue vers des formes plus sévères. Donc oui, on est tous touchés par le panari.
Est-ce que c'est grave un panari? Parce que moi aussi, je crois que j'ai souvenir d'en avoir eu quand j'étais un peu plus jeune, mais si c'est pris à temps, bon, certes c'est une infection, mais ça se traite bien, non?
Ça se traite pas mal si c'est bien traité. La première des choses, c'est de ne pas le traiter par le mépris et de dire que ce n'est pas grave, ça va passer. Si vous commencez à avoir des douleurs, c'est une infection. Si vous commencez à avoir une douleur, la douleur, c'est un signal de protection qui nous fait dire il se passe quelque chose. À ce moment-là, le premier réflexe à avoir, c'est de désinfecter, donc de faire ce qu'on appelle les bains de pieds, les bains de doigts, où vous allez mettre un antiseptique, quel qu'il soit, vous trempez le doigt 10 à 15 minutes,
deux à trois fois par jour,
vous prenez du paracétamol et surtout pas d'anti-inflammatoire, parce que l'idée pourrait croire
qu'on pourrait faire flamber l'infection.
Exactement, on ne prend surtout pas d'aspirine, d'Advil, d'ibuprofène, on évite de prendre des antibiotiques soi-même, et surtout, vous ne percez pas le panari. On a entendu justement quelqu'un dire « je prends une aiguille, je vide le pus », ça ne marche pas.
Ah bon, je croyais qu'on pouvait faire ça, moi.
On risque simplement d'évacuer le pus superficiel, mais vous n'allez pas retirer la coque profonde qui doit être retirée, lorsque c'est le cas, par un chirurgien, puisqu'il va gratter, nettoyer correctement, en faisant ça, vous risquez simplement d'avoir une accalmie transitoire qui risque de s'aggraver secondairement.
D'accord, donc on pique pas avec une aiguille, même si elle est bien nettoyée. Moi, je la brûlais à l'époque, ma mère me disait de faire ça, mais bon, je ferai plus, promis docteur. Ça se guérit en combien de temps, en général, avec tout ce que vous venez
de
décrire?
En quelques jours, les choses peuvent s'améliorer ou s'aggraver. À ce moment-là, si jamais ça ne s'améliore pas, vous allez avoir une collection avec du pu.
Ah,
ça
collection, va... vous adorez ce mot. Moi,
collection,
je...
une boule de pu.
Pourquoi vous dites pas une boule?
Mais il faut que je justifie mon titre de docteur. Une boule, vous allez penser aux
une
testicules.
Boule, bon, voilà. Non, faut pas exagérer, une boule on n'a pas toutes les idées mal placées.
Non, mais une boule de pu, ça va être très douloureux, ça va lancer, ça va vous empêcher de dormir. À ce moment-là, il faut une intervention chirurgicale qui se fait en ambulatoire.
Oui, j'ai une amie qui a dû aller à SOS Main, un service SOS Main pour un panari.
Alors,
et qui a été opéré.
Si vous arrivez au SOS Main, c'est qu'il peut y avoir une atteinte des gaines, c'est-à-dire vous avez des tendons au niveau, niveau de la paume des mains qui peuvent être infectés. Dans ces cas-là, c'est une infection beaucoup plus sévère. C'est souvent chez les personnes qui ont pris des anti-inflammatoires. Donc, ne négligez pas ça. Allez voir votre médecin dès les premiers symptômes. Ça peut suffire pour éviter d'arriver à la case chirurgicale.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. C'était très clair, comme toujours. Merci.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé, le bien-être et la sexo, évidemment, c'est dans son rendez-vous tous les jours. Avec vous, Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On a une question de Lise que Jimmy va nous lire. Allez Jimmy, c'est à vous. On adore quand vous faites la lecture.
Alors celle-là, ouais. Je m'y prépare. Mon mari aime les gros seins.
Ah, je l'ai même pas vu.
Comme par hasard. Il aimerait que j'augmente les miens qui sont tout rikiki, il faut l'avouer. Je refuse de changer mon corps. Après tout, il m'a aimé ainsi au départ. Que faire? Bon, je pense que la réponse est claire. Hein.
Oui,
ne faites rien, ne changez rien, il n'y a qu'à faire avec.
Voilà, hein. Merci, au revoir, c'est la fin de cette émission.
Tout de suite, retrouvez Mathieu Noël et Stéphane Bern. Non, mais honnêtement.
Vous, évidemment que vous avez raison.
Étrange.
C'est-à-dire que, c'est encore une fois, les femmes ne sont pas des poupées gonflables qu'on va gonfler d'un côté ou de l'autre selon les fantasmes que l'on voudrait pouvoir tester. On rencontre une femme qui est comme elle est.
Il y a les soutiens-gorge rembourrés, sinon.
Voilà. Et puis surtout, ce n'est pas anecdotique que toucher à son corps, de faire de la chirurgie.
Puis on fait pas ça pour un homme, hein, on est d'accord. Enfin, je sais pas.
C'est parce qu'il faut bien se rendre compte que on pourra vendre ce que l'on veut des merveilles de la chirurgie esthétique. C'est toucher un corps, c'est toucher un système nerveux.
Il faut que ce soit un désir personnel, vraiment.
Je dirais même qu'il faut que ce soit une réparation importante pour soi, parce qu'il y a quelque chose de très blessé ou de très, très abîmé dans sa perception de soi-même, avec un sentiment de narcissique défaillant. Mais dans la mesure où on a grandi avec ce que l'on est, on a séduit avec ce que l'on est.
Elle a séduit avec ses seins tout rikiki, comme elle dit.
Voilà.
Donc,
après, elle peut avoir des ambitions d'avoir de plus gros seins.
Mais elle n'a pas l'air. Hein.
Mais c'est assez désobligeant que de dire j'aimerais que tu te refasses. Alors on peut le dire comme ça, tu n'aurais pas envie de les avoir un peu plus gros. Ou moi, ça m'aurait plu qu'ils soient un peu plus gros. Mais le fait que si on se regardait
tous... C'est horrible,
tous...
comme si on disait « Non, moi, j'aimerais bien que t'aies des gros pectoraux, là, tu peux pas te faire des implants. » Non, mais franchement, on ferait jamais ça, nous, les
mais
femmes.
Mais c'est surtout que si on regarde... Oh, je pense qu'il y en a qui le font.
Mais l'homme, il peut faire des musculations, il peut faire des choses. Alors que là, on doit passer quand même par une intervention chirurgicale. C'est changer radicalement le corps de l'autre.
Avec des risques potentiels. Enfin, il ne faut pas minimiser tout ça, bien sûr.
Mais
est-ce
que ça ne viendrait pas notamment des réseaux sociaux où on exhibe de plus en plus des corps qui sont déformés, parfois... Déformer la réalité et déformer
nos grands-pères n'auraient jamais demandé ça à nos grands-mères.
Non, mais justement, peut-être qu'on voit de plus en plus de nudité. Alors, je vais passer pour un conservateur en disant ça, mais est-ce que du coup, ça ne met pas dans la tête des hommes des images en se disant ce doit être comme ça que le corps de la femme est. Et de la même façon, le corps des hommes doit être aussi super musclé, plein de testostérone pour assurer une virilité.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a même plus la notion de l'accueil, de la spécificité d'un corps. À tel point que quand on voit même des sexes en gros plan dans la pornographie, qui sont tout roses, ce qui n'est pas la normalité d'un sexe de femme, par exemple, adulte, eh bien, tout d'un coup, ça fait une obsession d'un réel inacceptable. Le réel, c'est que nous avons des corps qui ont leurs proportions, qui ont leur histoire, d'abord de génétique, mais aussi histoire de ce qui est possible ou pas possible de mettre en avant de soi.
Qui ont leurs cicatrices, leurs bourrelets.
Exactement. C'est tout un livre, un corps. Et si on se regardait tous de façon en pièces détachées, sans doute que nous n'aurions pas les meilleures, les plus jolies mains, le plus joli coude ou le plus joli sein. Mais c'est une globalité que
Jimmy,
l'on aime.
Jimmy a les plus jolis cheveux, je crois.
Oui, grâce à mon coiffeur qui me fait la barbe et tout pour 12€, tout compris. Mais néanmoins, on peut se dire que ça va être source de souffrance pour elle. Parce que déjà, la société dit comment on doit être une femme, épilée, maquillée, bien habillée.
Ça va être tellement vexant quand le mari fait ça, mon Dieu.
Son mari en rajoute une couche, du coup, elle peut perdre confiance en elle.
Elle peut. Donc, du coup, ça nécessite, évidemment, quand on n'est pas dans les codes d'une société, puisqu'encore une fois, les codes changent d'une époque à une autre, eh bien, il faut beaucoup de caractère, beaucoup de tempérament, beaucoup d'assurance interne. Donc, il faut pouvoir travailler cette sécurité interne pour pouvoir oser être qui l'on est. Et d'ailleurs, il y a des tenues merveilleuses, extrêmement sexy pour les seins tout riquiqui, qu'aucune femme qui aurait de gros seins ne pourrait mettre. Donc au contraire, qu'elle mette en avant cet érotisme, son sex appeal, si elle en a envie, et démontrer que c'est autrement qu'elle peut être extrêmement séduisante.
Donc on est d'accord, elle lui dit non, hein, et puis c'est tout.
Elle lui dit non, puisque je crois que c'est ce qu'elle a dit. Hein. Moi, je ne dirais pas qu'il faut dire non, mais là, elle l'a dit elle-même, qu'elle ne voulait pas.
Personne ne peut exiger de l'autre des transformations physiques chirurgicales, quand même.
Bien sûr que non.
Et puis, on va très loin.
Oui, là, encore une fois, elle n'est pas une poupée gonflable.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire comme tous les jours, sans se la raconter. Bonjour, messieurs.
Bonjour, Mélanie. Mélanie, tout se passe bien avec votre mari? Tout va bien chez les Gomez? Je l'espère pour vous. Aujourd'hui, notre thématique, ce sont les cocus magnifiques de l'histoire.
Oui, parce que vous connaissez, je suis cocu, mais content. Bah,
ouais, ils ne sont pas contents du tout.
Non, ils sont vraiment contents. Le marquis de Montespan n'était pas content du tout. Napoléon Bonaparte, il était cocu.
Alors, ça, oui, vous allez découvrir. Moi, je le découvre aujourd'hui.
Et vous avez trouvé un cocu content.
Vous me disiez que moi j'étais cocu, ça m'a fait un petit choc. Oui, moi je vous parle d'un contemporain, c'est Will Smith, le célèbre acteur américain. Et lui, il a appris qu'il était cocu dans l'émission présentée par sa femme à laquelle il assistait.
Ah, sympa.
C'est pas mal.
Merci beaucoup messieurs, je vous souhaite une excellente émission. Nous serons à l'écoute et vous aussi surtout, restez sur Europe 1.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.